carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Les académiciens portent l'habit vert, bleu nuit, brodé de branches d'olivier, symbole de sagesse, un bicorne pour certains et une épée. Des attributs officiels qu'ils doivent à Napoléon Ier. Si la tenue académique est très codifiée et obligatoire, le port de l'épée et l'épée n'obéit pas à des règles précises. Son origine est simplement liée à l'Institut d'Égypte et rappelle les usages de l'Ancien Régime. Véritable objet d'art, elle constitue l'attribut personnel de l'académicien et revêt donc une haute charge symbolique. Elle lui est offerte par ses amis, réunis dans un comité de l'épée, et lui est remise lors d'une cérémonie privée. Il s'agit souvent d'une œuvre originale qui lui est donc offerte dans le cadre d'une souscription. Mais elle peut être aussi une arme ancienne, une épée de cour ou un tout autre objet. Penchons-nous aujourd'hui sur l'épée de Patrick de Carolis en compagnie de son créateur, l'artiste Éric Desmazières, graveur, dessinateur, élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 2008. Dans quelques jours à peine, sous la coupole de l'Institut de France, le mercredi 12 octobre 2011, Patrick de Carolis sera installé officiellement au sein de la section des membres libres de l'Académie des Beaux-Arts par Hugues Cal, au fauteuil d'André Bettencourt, décédé en 2007. Éric Desmazières, bonjour.
Bonjour.
L'épée d'académicien a été donc dessinée par vos soins. Elle est ornée d'une tête d'Arlésienne et des symboles de l'émission « Des racines et des ailes », une émission qu'il a créée donc en 1997 et qu'il a animée jusqu'en 2005. Comment est née cette aventure? Vous êtes habituellement graveur, on ne vous attend pas dans la sculpture, mais là vous l'avez dessinée. Comment votre confrère vous a-t-il sollicité?
Écoutez, effectivement, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on me demande de créer, d'imaginer un tel objet. Enfin, Patrick de Carolis, très simplement, que j'ai l'occasion de rencontrer au cours de nos séances hebdomadaires, est venu vers moi et m'a demandé si j'accepterais de dessiner son épée. J'ai tout de suite dit oui, par amitié pour lui. Ensuite, j'étais très touché de la confiance qu'il me faisait, je dois dire. N'ayant pas un dossier à montrer, un dossier d'épée à montrer à qui il souhaiterait. Et donc, il m'a très vite dit ce qu'il souhaiterait voir figurer comme symbole. C'était tout à fait simple. Ensuite, nous sommes revus à plusieurs reprises. J'ai fait une première esquisse qui a plu, une deuxième plus détaillée. Et puis donc, il était bien convenu que je la dessinais et qu'elle serait réalisée par un maître de l'art, un orfèvre qui s'appelle Thibaut Serger, qui est partie prenante d'un atelier d'orfèvrerie qui s'appelle l'atelier Fabre et qui travaille pour la joaillerie, pour des grandes maisons de la place Vendôme. Voilà.
Alors, comment est née l'idée de cette épée très féminine, en raison des origines familiales de Patrick de Carolis, qui est né à Arles?
Alors, en effet, il m'a tout de suite... Enfin, j'ai pas un très grand sens des symboles. Et d'ailleurs, pour ma propre épée, j'étais bien en peine de demander à la personne qui l'a réalisée, car à l'époque, j'avais été tout à fait incapable d'en dessiner une pour moi-même. Alors, il m'a tout de suite dit ce qu'il voulait voir figurer sur l'épée. Une image de sa mère, dont il avait d'ailleurs des photos très belles, alors qu'elle avait une vingtaine d'années et qu'elle était en costume traditionnel d'Arlésienne. Une évocation de cette émission culte, on peut dire, des racines et des ailes qu'il a créées et qu'il continue à produire d'ailleurs. Et puis le symbole de la ville d'Arles et petit symbole aussi de la Provence. Donc en fait, j'ai fait un dessin en noir et blanc. C'est le dessin qui a généré le choix des matériaux. C'est-à-dire que face à ce dessin, en compagnie de Patrick de Carolis et de l'orfèvre, nous avons réfléchi à ce qui était le plus adapté pour réaliser l'objet en trois dimensions. Je n'ai pas réalisé le dessin en pensant à des matériaux particuliers. Alors le résultat est assez beau, en effet, c'est, enfin, du point de vue des matériaux en tout cas, parce que la tête de sa mère qui figure au sommet de l'épée est en or blanc, ensuite le manche lui-même est en ébène sculpté. Ensuite, il y a des ailes qui sont en argent et le début du fourreau est également en argent avec une cigale qui, elle, est en ivoire. Le tout étant ce qui ne me déplaisait pas et ce qui correspondait au dessin, d'ailleurs, étant très monochrome, en fait, très noir et blanc.
Noir et gris blanc. Et blanc gris dire, et blanc. Voilà. Sa mère était reine de beauté.
En tout cas, je sais pas. En tout cas, mais elle était, la photo dont j'ai disposé était vraiment une femme d'une beauté classique. vraiment comme un buste romain, enfin très très beau, c'est une photo de trois quarts, très très beau, et je pense qu'il était très jeune sur cette photo, une vingtaine d'années au maximum, et vraiment un visage très romain, on peut dire, comme certains bustes romains peuvent en décrire.
Je crois qu'elle a longtemps porté le costume traditionnel,
en
donc
effet,
il l'a vu porté en costume dans son enfance, et qu'elle a été élue reine des provinces françaises en 1947. Donc, si vous avez...
Alors là, je pense que la photo devait dater de ce moment-là.
De ce moment-là, oui. Donc, une très belle femme. Donc, vous l'avez représentée avec sa coiffe.
Alors, en effet, Patrick tenait beaucoup à ce qu'on garde cette coiffe d'Arlésienne très particulière, qui est une espèce de ruban qui vient encadrer un chignon et qui se trouve au sommet de la tête, qui présentait en plus un côté pratique pour ce qui est de l'épée, puisqu'il y a une tige au bout de la lame qui se termine à cet endroit. Il faut dire qu'on a utilisé aussi pour l'épée elle-même une ancienne épée que l'orfèvre a trouvée, qui est une épée probablement du 19e, avec une très jolie gravure dessus, qui vient en plus embellir l'objet. Une épée très longue, mais il se trouve que Patrick de Carolis est très grand, alors elle ne traînera pas derrière lui. Et ça a été une collaboration très agréable dans le sens où il y a eu, ça s'est fait étape par étape. Il y a d'abord eu un premier dessin qui était vraiment une première pensée, enfin, comme il y en a toujours pour des objets comme ça, et puis un deuxième dessin plus précis. Puis l'orfèvre a fait une maquette en scie, en trois dimensions, sur laquelle on a réfléchi, on a corrigé certaines choses, on a corrigé notamment les proportions. On a un peu allongé le manche, etc. Et donc ensuite, il y avait une présentation dans l'atelier de l'orfèvre avec le manche qui n'était pas encore sculpté. Puis on a entamé la sculpture, puis on a réfléchi aussi aux patines. On a un peu adouci la patine de l'argent. Enfin bref, ça s'est fait comme ça avec quand même un certain nombre de rendez-vous. Et puis tous les trois, on est restés toujours, on a toujours pris les décisions à trois.
Voilà, toujours. Voilà. Alors, la partie ici, entre la tête de...
Entre la tête et les ailes, c'est-à-dire entre la garde et le sommet de l'épée, c'est-à-dire le manche, est en ébène. C'est supposé, de manière très stylisée, évoquer des racines, un entrelac de racines, disons. Et donc, j'avais fait un dessin qui a été sculpté par quelqu'un qui s'appelle Valence à l'atelier Fabre, voilà, qui a commencé son travail. Et ensuite, on est allé le voir. Et ensuite, il y a une patine, parce que c'était très noir et ça a été un peu. Le ton a été un peu réchauffé.
C'est sculpté comment ? C'est sculpté en creux ?
Oui, oui.
Parce que là.
On part d'un cylindre d'ébène.
D'ébène,
et on sculpte en creux, en effet, oui, avec des outils de sculpteur, sur bois, oui, avec des gouges, etc., avec des canifs. Une matière agréable en main. Comme cet entrelac et cette ébène est un matériau très chaud. Et...
Comme l'ivoire, d'ailleurs.
Là, y a... Alors, il y a une petite touche d'ivoire qui termine, enfin, qui se trouve au sommet du fourreau et qui symbolise la Provence et qui a été sculptée aussi d'après un dessin que j'avais réalisé.
Une petite cigale.
D'après une petite cigale, ou d'après une image de cigale.
Est-ce qu'elle chante ?
Nous verrons le jour de l'installation.
Et alors, quel est ce lion-là ?
Alors, le lion, c'est aussi... j'ai vraiment été tout à fait ouvert aux suggestions de Patrick, et c'est le lion de la ville d'Arles. Je pense que ce n'est pas la seule ville qui a un lion dans ses attributs, mais ce lion a été aussi réalisé par l'atelier, avec des procédés d'ailleurs. Enfin, j'ai pu voir extrêmement modernes de mise en trois dimensions par un procédé de laser, comme ça, qui permet de revenir sur l'objet en trois dimensions avec des procédés très modernes, car cet atelier qui travaille pour la haute joaillerie... est équipé de moyens extrêmement modernes de travail. J'ai pu le découvrir, je ne le savais pas. Et une épée comme celle-là, en fait, met en jeu des techniques très modernes, alors que l'objet paraît très traditionnel. En fait, on fait appel à des techniques
On a adapté très votre dessin et on l'a mis
Parce que le dessin est...
Dans les logiciels de
l'ordinateur. Tridimensionalisé, on va dire.
Voilà, de l'ordinateur. Voilà. Pour ajuster, pour...
Oui, et puis c'est très, très précis quand même. Parce que le dessin est relativement précis, donc il a fallu quand même être très précis dans la réalisation.
Ça se fait au millimètre ?
Ah oui, oui, c'est quand même... c'est du travail de joaillerie.
Très précis, à la loupe.
Oui, ils ont avec des binoculaires, etc. Et puis les différentes pièces s'assemblent entre elles ensuite. Voilà, enfin, ça a été un travail qui avait été commencé avant l'été, qui a été terminé en temps et en heure. Donc il aura son épée le 12 octobre prochain.
Il était content du résultat final ?
Écoutez, je pense qu'il était content, oui, je pense que ça répondait à son attente. Moi-même, j'étais un peu anxieux, parce qu'entre un dessin... Et la réalisation d'un objet comme ça, en plus, qui est quand même un objet très précieux, on est un peu, on espère ne pas être déçu. Et finalement, on est ému de voir le résultat. Car quand même, il y a beaucoup de talent de la part de la personne qui réalise l'objet d'après le dessin. Il ne doit pas trahir la pensée de l'artiste qui est à l'origine du projet. Il doit en plus être aussi précis, parfois plus précis encore, puisqu'il est dans la troisième dimension et que moi, je n'étais que dans les deux dimensions du dessin. Et par conséquent, je pense que tout le monde, ça s'est passé dans une atmosphère très agréable. Je pense que tout le monde était content.
C'était vraiment la première fois que vous réalisiez une épée académique?
Alors, c'était la première fois depuis que j'étais enfant et j'avais dû peut-être me faire des épées en bois. J'avais été incapable de faire la mienne. Et
Qui a réalisé la vôtre?
Alors, la mienne avait été réalisée par un sculpteur brésilien qui s'appelle Sinclair Semin, dont j'avais beaucoup aimé le travail au musée de la chasse et de la nature, qui a été rénové, dans laquelle il est beaucoup intervenu. Et nous avons des amis communs qui m'avaient donc encouragé à aller voir son travail. Et j'avais été très, très séduit. Enfin, je le connaissais déjà, mais je ne m'étais pas dit qu'il pouvait intervenir sur une épée. Et ça avait été aussi un travail où la collaboration entre les deux s'était très bien passée, même si la chose avait été prête à peu près une demi-heure avant l'installation. Ce qui avait généré un certain stress qui sera épargné à Patrick de Carolis.
Est-ce que c'est facile comme ça pour vous de passer de la bidimension à la sculpture, on va dire à...
C'est pas très facile, mais comme je vous dis, moi je me suis contenté de faire le dessin. C'est pas très facile parce que j'ai toujours du mal à... Je suis toujours comme embarqué dans un travail et j'ai du mal à en sortir pour bifurquer sur quelque chose de différent, même si ça arrive. Mais j'aime bien le principe de la commande, et ça s'apparente quand même au principe de la commande, car ça, justement, ça vous met dans une position moins confortable, pas forcément quelque chose que vous êtes habitué à faire, et donc il y a un problème à résoudre. Et j'aime bien.
Il y a presque un risque, même.
Oui, bien sûr. Non, mais enfin, en principe, même si on ne met pas dans le mille du premier coup, ensuite on réajuste, etc. En principe, quand même, on arrive assez fin. Mais j'aime bien le principe de la commande, qui est justement de vous mettre dans une position pas forcément confortable par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, et qui vous oblige à trouver des solutions à un problème qu'on vous pose de l'extérieur.
Est-ce que vous réaliseriez des épées? Est-ce que vous passeriez au travail de la sculpture maintenant?
J'en ai un tout petit peu fait quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans. Et j'ai jamais donné suite parce que la gravure a vraiment tout englouti, on va dire, du point de vue du temps. Mais j'avais beaucoup aimé, oui. Mais enfin bon, j'en ai fait trop peu pour pouvoir en parler en tant que professionnel. Cela dit, j'aime beaucoup les trois dimensions. Et pour revenir aux épées d'académiciens, je trouve que j'ai justement un bel exercice de commande, car on pose comme ça un problème très spécifique, mais dans un cadre très bordé. Puisque cette épée, quand même, est toujours, elle se ressemble quand même plus ou moins toutes, etc. Mais il y a une très grande fantaisie, il y a de très grandes variations. Il y a comme ça une très grande variété, dont d'ailleurs la bibliothèque de l'Institut ou l'Institut garde trace, car je crois que beaucoup de plâtres préparatoires sont conservés, ou d'épées d'ailleurs. Il y aurait matière à une publication, ou en tout cas à un inventaire, car il y a une espèce de renouvellement comme ça qui s'est fait au fil des années. Et donc, je trouve que c'est un bel exercice. Et il y a une très grande variété, d'ailleurs, dans les épées. Très, très grande variété.
Est-ce que c'est courant qu'un académicien réalise une épée pour son confrère?
Écoutez, je suis trop novice dans cette maison pour le savoir. Il me semble que c'est un usage...
À l'Académie des Beaux-Arts, ça se fait.
Ça doit se faire,
ça
oui,
se fait.
Oui, oui.
Jean Cardon en a réalisé plusieurs.
Je sais que mon confrère Pierre-Édouard a réalisé la sienne, très récemment, qui est superbe, qui est en bronze. Enfin, dans la garde est en bronze. Je ne sais pas quel est l'usage. Je n'ai pas assez de recul là, pour vous dire. Je ne me suis pas encore penché avec le sérieux que cela requiert sur cette question.
Merci Éric Desmazières d'être venu nous présenter l'épée d'académicien de Patrick de Carolis que vous avez créée à sa demande. Nous avons la chance d'avoir sous les yeux le dessin de cette épée que vous avez imaginée. Nos auditeurs pourront la voir sur notre site internet. Rappelons que cette épée a été réalisée par l'orfèvre Thibaut Serger à l'atelier Fabre qui travaille en région parisienne pour la Maison Dior et bien d'autres. Merci encore.